des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent Desureaux, pour être affûté sur l'actualité.
Alors, vos yeux se sont peut-être tournés vers la Lune dans les derniers jours. Il a fait finalement beau. Et sachez que depuis quelques mois maintenant, il y a un petit cratère de plus sur la Lune. Et ça fait beaucoup jaser en raison de l'impact de débris de fusées. Finalement, cette trace-là a été retrouvée par des astronomes. Ça fait beaucoup de bruit dans les dernières heures. Même si c'est une histoire qu'on connaît depuis quand même un certain temps. Pour parler de ça et de d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont suivis par notre prochaine invitée, astrophysicienne et coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, Nathalie Ouellet est en ligne. Bonjour Nathalie.
Bonjour Vincent.
Donc cette histoire de Lune et de ces nouveaux cratères, qu'est-ce qu'on sait de cette histoire?
Oui, donc ça met vraiment en évidence le problème de débris spatial qu'on a de plus en plus. Donc c'était prédit déjà au début de l'année qu'un morceau de fusée, on ne sait pas trop ça, quelle fusée s'en allait vers la Lune et allait percuter la surface de la Lune. On avait prévu le 4 mars, mais c'est sur l'autre côté de la Lune qui n'est pas visible pour la Terre. Donc, on savait qu'on allait devoir attendre quelques temps pour que l'orbiteur autour de la Lune se positionne pour prendre une photo, voir si on voit bien le cratère d'impact. Et ça a été confirmé la semaine passée. On voit un nouveau cratère sur la Lune.
Et là, malgré que j'ai l'impression qu'on suit beaucoup de débris spatiaux avec des anciennes fusées, on doit savoir à peu près son où, mais visiblement, pas tant que ça. Il y a des mystères encore sur c'est quoi cette fusée-là? On parlait d'une fusée chinoise. Finalement, ça semble pas être le cas.
En fait, on pensait initialement que c'était peut-être un débris d'une fusée de SpaceX, une Falcon, mais on est capable de voir un peu avec la brillance, les couleurs du débris, qu'on voit pas comme une belle photo qu'on prend juste à côté de nous. C'est vraiment un point de lumière qu'on étudie. Mais on peut voir c'est quoi le genre de matériaux qui sont dans la fusée. Là, ça semble être peut-être plus un morceau de débris de fusée chinoise, mais les Chinois, eux, réfutent. C'est pas à eux. Ils sont sûrs que c'est pas leur fusée. On n'est pas trop sûr c'est quel morceau de fusée, en fait.
Est-ce qu'il y a quelconque intérêt scientifique, pour toi qui t'intéresse à ça, de voir un nouveau cratère? Est-ce qu'on est capable d'étudier quelque chose où ça n'a absolument aucune valeur? On ne fait seulement que constater ce qui s'est passé?
Non, en fait, c'est très intéressant parce que le cratère est en fait un cratère double. Donc, c'est comme en forme d'arachide un peu le nouveau cratère qui a été créé. Et donc, on ne comprend pas exactement, c'était pas ce qu'on avait prédit. Le débris devait avoir une forme étrange avec deux poids lourds d'un bord et de l'autre. Mais en regardant ce genre de cratère d'impact, on peut voir comment la surface de la Lune réagit envers des matériaux différents. Donc, il y a quand même un intérêt scientifique pour les astronomes qui s'intéressent à la Lune.
Parce que reste qu'il y a beaucoup, et on en parlera beaucoup dans les prochains mois, les prochaines années de la Lune, parce que les grandes missions recommenceront bientôt vers la Lune, malgré, je pense, des délais, des coûts supplémentaires importants. Mais on en parlera beaucoup de la Lune bientôt.
Oui, absolument. Et puis pour nous, c'est excitant parce qu'il va y avoir les premiers Canadiens qui vont aller faire un tour autour de la Lune. Peut-être aller à la surface, on n'est pas sûr, mais au moins, on aura un Canadien qui orbite autour de la Lune éventuellement.
Et Nathalie, pas le choix de te parler du télescope spatial James Webb. tu es très près de ce projet-là et on en a beaucoup parlé lors de son lancement dans le temps des fêtes, à Noël, pratiquement, c'est le 25 décembre, si je ne me trompe pas. Il y a eu de longues étapes de déploiement et tout ça de cet outil de plusieurs milliards de dollars. Mais là, on est tout près d'avoir ces premières images des confins de l'espace. Est-ce que tout se passe comme prévu dans le déploiement de cet appareil d'un niveau technologique que l'humain a presque jamais atteint auparavant?
Oui, absolument. Donc, on arrive vraiment à la fin de la mise en opération. Les dernières étapes qui restent, c'était de s'assurer que les instruments fonctionnaient bien. Et hier, on a pu annoncer que l'instrument canadien, c'était le premier instrument à être officiellement prêt pour la science. Donc, on est les premiers en ligne pour faire notre science. Et les premières images vont sortir le 12 juillet, les premières images. Plein de couleurs, haute résolution, donc on est très excités.
Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va voir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vise?
Ah, c'est un secret très bien caché. Même les personnes proches de la mission, comme moi et le chercheur principal au Canada, ne le savent pas. On a des idées en tête, mais c'est top secret. On va le voir vraiment le 12 juillet.
Sais-tu s'ils visent quelque chose pour plus aller? J'ai l'impression que tu n'as pas la réponse, mais je te lance quand même la question. Est-ce qu'on veut... une image qui va aller frapper l'imaginaire d'un peu tout le monde en étant « wow » ou quelque chose de scientifiquement pertinent?
Vraiment, le but, oui, c'est de faire un gros splash, un « wow » pour que le public puisse voir la puissance du télescope, mais c'est aussi de vraiment montrer le potentiel, le plein potentiel de chacun des instruments. Donc, chaque instrument va avoir sa propre première image qui va montrer le plein potentiel scientifique de l'instrument.
Comment ont été tes nerfs dans les derniers mois? Parce qu'on comprend que cet appareil-là, qui était replié sur lui-même, un appareil à 10 milliards, qui a pris des décennies à construire et que là, devait, étape par étape, être déployé à des une distance incroyable où on peut évidemment pas aller réparer le moindre problème. Mm-hmm. Pour les chercheurs, pour les scientifiques comme toi, ça a dû quand même être énervant à chaque jour de dire, bon, on a une nouvelle étape, est-ce que c'est celle-là qui marchera pas?
Je dois l'avouer, en effet, j'étais très nerveuse, surtout au début de la mission, parce que la plupart des gros déploiements, des mouvements risqués étaient au début de la mission. Mais ça s'est tellement bien passé qu'on s'est mis en confiance assez rapidement. On a vu que ça se passait très bien. Et à chaque étape, on était surpris à quel point le télescope performe mieux que nos attentes, en fait. Donc, on espère que ça continue.
Et rappelle-nous un peu l'intérêt principal de ce télescope-là aux capacités hors normes. Qu'est-ce qu'on... Je comprends qu'il y a plein de champs d'études. Toi, tu es davantage dans les exoplanètes. À quelle grande question pourrait répondre James Webb dans les prochaines années?
Oui, donc surtout avec l'instrument canadien, les deux grandes missions scientifiques qu'on a, c'est étudier les toutes premières galaxies qui sont créées juste après le Big Bang. Donc, regarder le plus loin dans l'univers, plus loin qu'on a été capable de faire avec d'autres instruments avant, et étudier l'atmosphère d'exoplanètes pour potentiellement en trouver qui serait habitable ou peut-être même habité, donc des signes de vie extraterrestre.
C'est quand même une grande question, ça, si
oui,
jamais James Webb y répond. En terminant, Nathalie, pour revenir au dossier de la Lune, où on a vu donc des débris qui ont atteint la Lune dans les derniers mois, on parlait des débris spatiaux. À quel point ça inquiète l'industrie et le monde entier de voir la multiplication des satellites être envoyés? On voit SpaceX là, qui envoie des dizaines de satellites par année. C'est pas des centaines pour sa couverture Internet. On se retrouve à avoir tout un bouchon de circulation dans l'espace. Est-ce que ça met en péril de futures missions ou l'utilisation même de l'espace dans les prochaines décennies?
Oui, malheureusement, bon, c'est une grande inquiétude pour la communauté scientifique. Et pas seulement pour nous, en fait, parce que on pense que ces satellites, ces constellations de satellites contaminent un peu le ciel nocturne pour tout le monde. Donc, on commence à avoir plus de satellites dans le ciel que d'étoiles. C'est un peu triste, mais quand même, de pas pouvoir avoir un beau ciel quand on va dans la campagne ou peu importe. Donc, à l'Union astronomique internationale, on a développé un nouveau centre pour les ciels noirs et les ciels silencieux dans les ondes radio pour essayer de conserver justement ces ciels nocturnes en avouant qu'il y a des bénéfices, bien sûr, des avantages d'avoir ces constellations de satellites. Donc, c'est vraiment avoir une conversation avec les grands joueurs industriels.
Est-ce qu'on est capable de les que ça scintille un peu moins, par exemple, un satellite avec une couverture noire, quelque chose comme ça? Est-ce qu'on y pense, ça, les concevant?
Il y a eu un test, ça fait quelques années, par SpaceX, de mettre une genre de peinture noire pour essayer de rendre leur constellation de satellites moins réfléchissante, parce que c'est ça, en fait, c'est la lumière du soleil qui est réfléchie, qui les rend brillants. Mais le test n'était pas vraiment conclusif et ça semble avoir fini là, ça n'a pas continué. Mais il y a aussi la problématique que ces satellites sont très bruyants dans les ondes radio et donc ça cause des problèmes pour la radioastronomie aussi.
Bon, au moins pour ce qui est de James Webb, il est bien loin de tout ça et on pourra avoir une image bien claire dans deux semaines et je pense qu'il y aura beaucoup d'excitation en tournant ça. Nathalie Ouellette, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir, Nathalie Ouellette, astrophysicienne, coordonnatrice de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal.